Bonjour, Elle.
Bonjour, Antelio.
Vous êtes tombée dans le trou du lapin, et voici le menu du jour.
Eh bien, pour l'interview, nous avons choisi de partager un moment de voluptueuse félicité avec Fabrice Raymond.
Bonjour, Fabrice Raymond.
Bonjour, Fabrice Raymond.
Bonjour, mes Alice.
Fabrice Raymond sera notre plat principal. Nous l'agrémenterons de quelques amuse-gueules, comme à l'accoutumée, une énigme, deux chansons et un portrait de non-anniversaire.
Notre portrait de non-anniversaire, vous en connaissez le principe, Fabrice ? Un hommage à une personnalité que l'on aime d'autant plus que notre parole est libre, car notre personnalité bien-aimée est décédée.
Aujourd'hui, ce non-anniversaire sera consacré à Valentine de Saint-Point.
Vous verrez bien à quel péché capital, orgueil et débauche d'énergie, son non-anniversaire sera fêté.
Fabrice Raymond, vous savez que c'est très mal élevé de s'asseoir quand on n'est pas invité, hein ?
Alors je crois que c'est encore plus mal élevé de laisser les gens debout, donc je vous ai évité l'humiliation publique en m'asseyant.
Maintenant, mon cher, j'ai l'impression que vous avez une préoccupation. Voulez-vous nous dire ce qui vous anime ou, selon vos propres mots, ce qui vous émeut ?
Ce qui m'émeut, c'est vous, tout de suite, maintenant. Après, ce qui m'inquiète, c'est je ne sais pas où vont les bulles de mon Perrier dans mon verre quand elles s'en vont.
Fabrice Raymond, est-ce que ça voulait dire que ça vous ennuie, les bulles ? Qu'est-ce qui vous ennuie ?
Ça m'ennuie pas, ça fait un joli petit son comme ça, une sorte de grésillement. Mais tout d'un coup, je me dis, ces bulles s'en vont. Et je me demande si elles s'en vont pas avec vos mots.
Ou dans votre estomac.
Non, les bulles, non.
À propos de mots, Fabrice, votre écriture fragmentaire est une écriture qui repose sur des. Ou qui semble reposer sur des décombres, sur un monde en ruine.
Oui, il y a quelque chose, je parle toujours d'archéologie. Hein, j'essaye de comprendre ce que je fais en le faisant, hein, mais il y a un truc d'archéologie. Ouais. Et j'aime bien dans l'archéologie, dans les ruines, donc c'est la présence de tous les niveaux de réalité. Quoi, hein, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien le sublime, les grandes œuvres d'art, et que des canalisations, des bouts de publicité, des images déchirées. Voilà, il y a tous les niveaux de réalité qui font notre vie, quoi. Donc j'essaie d'avoir tous ces niveaux de choses dans ce que j'écris. Et le fragment permet ça, c'est-à-dire d'être dans toujours un perpétuel saut du coq à l'âne. Et voilà. Alors je dis aussi que il y a Hubert Robert, qui est un artiste. Graveur, dessinateur, je suis venu dans l'histoire du 18e, hein, donc un peu avant la Révolution française, qui alors on a beaucoup dit qu'il y avait une espèce de préscience comme ça, puisqu'il a fait de grandes fresques, c'était le goût des ruines à l'époque, c'était la grande mode des ruines, mais il a donc fait des grands dessins de la galerie des glaces, du Louvre en ruines. Et ça, c'était genre 30 ans avant la Révolution française. Et on a dit, voilà, il a la préscience de ce qui allait se passer, voilà. Je trouve ça une assez jolie idée, et donc je m'approprie cette préscience, et je dis que peut-être les livres vont disparaître, et donc j'écris déjà ces tessons de poterie qui vont être dispersés comme ça, et que chacun s'approprie.
Fabrice, moi je comprends que vous préférez l'entropie au protocole d'écriture. Laissez-vous faire plutôt la décantation ou imposez-vous des règles, des rituels, des contraintes chaque jour ?
Très beau, je préfère l'entropie à les rituels d'écriture.
C'est ça, les protocoles,
voilà, ouais. Oui, absolument, génial. Ah oui, absolument,
ouais, absolument.
C'est ça, l'entropie. Je pensais à l'entropie tout à l'heure, justement. Ouais. Quand on a un système. L'homme et le rapport au langage, c'est-à-dire que c'est comme si le langage. Et j'ai compris un truc très important. Je vous le dis, je vais essayer de faire court. Hein.
Non, on a envie de le savoir. On a le temps. Ensuite.
C'est que je pense que le langage, c'est ce qui évite à notre ADN de tomber en miettes. En fait, notre ADN se nourrit de la structure du langage. En fait, ça sert à ça juste. De la même façon qu'on mange, on se nourrit de la structure des aliments. En fait, on est limite. Alors, parce que j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, je fais mon malin, hein, mais c'est un copain scientifique qui m'a appris ça, j'ai compris ça il n'y a pas longtemps, qui m'a expliqué l'entropie, parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup. et Smithson, et bon, tout ça. Et comme beaucoup de mots, comme ça, je ne connais pas assez. Non, un jour, je me suis dit, bon, il faut qu'on m'explique ce que ça veut dire. Et donc, il m'a expliqué, c'est-à-dire tout système fermé tend à sa destruction. C'est-à-dire tout système structuré qui est fermé tend à la déstructuration. Ça ne marche jamais dans l'autre sens. Hein. Il dit, et sauf les systèmes ouverts. Et donc, l'homme, par exemple, c'est un système ouvert qui ont des petits enfants et puis on grandit, on se développe. Alors après, il y a la sénescence qui est un autre programme, mais. Sénescence. Mais donc on, c'est parce qu'on a un système ouvert qu'on se développe. Et on parlait des. Et je lui disais, il me prenait l'exemple de la nourriture. Et donc, à un moment donné, je lui dis, c'est ça. En fait, on se nourrit de la structure des éléments, la structure moléculaire des aliments qui nous permettent de lutter contre la destruction naturelle de nos cellules, de notre organisme. Et donc, langage, pareil, avec la double hélice de l'ADN. Sans langage, notre hélice d'ADN tomberait par terre comme un cadeau. Après, je ferai court maintenant. Parce que là, c'était trop long.
On va voir.
On coupera.
Fabrice, et si le bonheur consiste à suivre son désir ? Comment continuer à désirer dans un monde qui exacerbe les désirs et les frustrations en simultané ?
Quelle est la première phrase ?
La première phrase, à vrai dire, c'est la vôtre.
Ah oui.
Si le bonheur consiste à suivre votre désir.
Ah oui. Oh, j'ai dit ça, moi.
C'était pas une interrogation, c'était plutôt une affirmation.
Oui, oui. Mais par contre, ça c'est super intéressant, ce truc, cette double injonction paradoxale, cette injonction paradoxale de la société, quoi, qui est drôle, qui est complètement logique en fait. C'est-à-dire que l'injonction du désir permanent, de la publicité, de tout, quoi, c'est la sauvegarde de la société, de l'espèce, quoi. C'est-à-dire, bon, il s'agit quand même de se reproduire à un moment donné et de ne pas arrêter de se reproduire. Donc le désir est nécessaire dans ce sens-là. Et en même temps,
revient au système ouvert, finalement.
Exactement, ouais, absolument. Ouais. Ouais, le désir, c'est aussi l'ouverture de son propre système à un autre système, à ceux des autres. Quoi. Parce que sinon, c'est une espèce de morsure, une piqûre de rappel. Mais oui, donc cette double injonction, et l'autre injonction, alors je ne vais pas faire Foucault, hein, mais. Et l'autre paradoxe.
Foucault.
Vrai. C'est qu'effectivement, après, si on fait l'amour à plusieurs tout le temps, partout, il faut à un moment donné domestiquer le désir. Donc il y a aussi, c'est ce que vous disiez, chère elle, c'est que en même temps, la société est aussi toujours dans l'injonction du désir, et dans la stimulation du désir, et dans sa frustration. Quoi, hein. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des conneries, hein, mais à la fois, on voit des photos de mini-modèles qui ont 8 ans dans toutes les publicités, et après, on fait des sketchs délirants sur la pédophilie, où c'est Satan incarné, enfin, tout ce truc très paradoxal, quoi, très étrange.
Fabrice Raymond, l'anabase serait la montée de l'esprit. Pour d'autres, l'expédition vers l'intérieur, ou encore le poème de la solitude dans l'action. Quelle serait la définition de votre anabase ?
Alors, je dirais, on a pour 2 heures, hein, puisque l'anabase, c'est le titre de tous mes livres, enfin, de mon livre, hein, voilà, qu'a priori, j'écrirai toute ma vie, sauf si j'en ai marre. Hein, mais... Donc, après, je publie comme un rapport d'activité, comme ça, tous les 2 ans. Donc, l'anabase, c'est cette collection de fragments que je collectionne tous les jours, que j'écris, que je réécris beaucoup. Et que je dépose dans des livres, là, et que je publie tous les 2 ans. Voilà. Et donc, c'est mon projet en général. L'anabase, c'est le retour, hein, c'est un mot grec qui veut dire l'anabasis, le retour, l'écartement, la remontée. Alors, il y a 10 000 trucs, je vous dis écartement, parce que ça, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je suis allé voir vraiment l'étymologie du mot grec anabasis, qui est l'écartement, effectivement, l'écartement que font les jambes pour remonter. C'est l'occasion de regarder sous la jupe des filles. La base aussi, mais l'écartement, c'est aussi celui de la versification du poème. Bon, bref, bon, il y a plein de trucs comme ça, mais simplement plus simple. Ce matin, j'avais répondu à une copine là, qui est au Brésil, hein, avec qui je travaille, et qui me disait qu'il y a une expression très belle alors en portugais, où, malheureusement que je ne parle pas, qui me dit je suis là-bas où je tue ma nostalgie. Je suis, et c'est une expression qui veut dire aller tuer sa nostalgie, ça veut dire aller là où on a toujours rêvé d'aller, quoi. Et donc je lui ai dit, ah ben ça c'est marrant, voilà, à la base c'est un peu ça, c'est tuer sa nostalgie, c'est toujours être mélancolique, hein, passé.
C'est exaucer aussi quelque chose.
Du coup, oui. C'est le chemin du retour. Oui.
Alors Fabrice, justement, dans la base et dans vos écrits, on a savouré le choix des mots que vous utilisez. L'un d'eux en particulier m'a beaucoup intrigué, c'est le mot encrapulement. Et j'aurais voulu savoir quelle crapule ou quelle encrapulée êtes-vous donc ?
Alors je l'ai pris à Arthur, hein, à Rimbaud. Hein. C'est peut-être dans un moment où je parle de dérèglement des sens, je dis l'artiste ou le poète singulièrement est un technicien du sensible, un ouvrier spécialisé du sensible. Donc l'encapulage, je sais pas, je vais essayer de vous répondre un peu personnellement, d'arrêter, mais je sais pas, moi j'ai pas de vie, moi de toute façon je suis encrapulé dans les textes, je sais pas à quel encrapulé je suis.
Alors maintenant, nous allons écouter une chanson.
Faire David, Words Don't Come Easy.
Elle,
Antelio.
Une question nous a été soufflée par Thomas Luciol.
Où vont les mots après les discours ?
Tu entends par là les discours, les toasts, les mots que l'on prononce fort devant une assemblée, à l'entrée ou avant la pièce montée ?
J'imagine que les mots viennent d'un seul espace, celui du livre, du dictionnaire, de l'encyclopédie, du lexique universel, la Bible des mots. Mais si cet espace est clos, c'est l'enfer, l'entropie, l'enfermement.
Il n'y a pas de place pour l'invention de nouveaux mots, de nouveaux sentiments, nouveaux concepts, nouvelles situations. Les onomatopées sont bannies.
Les mots adressés à une assemblée, avant ou après l'hostie, les paroles d'une lideuse, d'une rassembleuse, d'une prêtresse, les mots du jugement.
Les mots viennent-ils de la tête de l'oratrice ou d'un nègre mal caché, d'une cervelle visible ou dissimulée ?
Quand la pensée est cloisonnée, les mots reflètent les fonctions cérébrales localisées dans des régions précises du cerveau. Alors, des capacités particulièrement développées, comme la gaieté,
la passion,
la rancœur,
la bienveillance
ou la cruauté, relèverait d'un territoire spécifique sur la carte du crâne.
Les mots sont blancs, parfois, ou plastiques en synchronie avec d'autres. Ils battent l'air, ils volent par groupe ou parfois seuls. D'un côté ou d'un autre, ils se collent et se décollent.
Il existe même des mots écrits en lettres bâtons pour se faire battre.
Un mot est un son ou groupe de sons articulés ou figurés graphiquement. Les mots constituent une unité porteuse de signification à laquelle est liée, dans une langue donnée, une représentation d'un être, d'un objet, d'un concept.
Les mots du discours assènent des mots d'ordre, corsettent les concepts, instrumentalisent les histoires. Ils ne peuvent être chuchotés, pas plus qu'ils ne peuvent être chantés.
Articuler, balbutier, détacher, scander, traîner ces mots. Bégayer des mots sans suite, mal prononcer ces mots.
Lourd comme un mot mal pensé, qui chute au sol et s'enlise.
Mange tes mots un peu, qu'ils prennent du poids. Où iront-ils ensuite? Resteront-ils propres ou dériveront-ils vers l'impropre?
Après avoir été dit, les mots s'échappent. Quand ils ont été vociférés, ils s'immolent. Et quand ils sont bégayés, ils s'imposent comme un chemin sinueux de cailloux lisses dans le maquis d'un petit poussé factice.
Tu veux démystifier l'écriture, la rendre mélancolie, me priver de l'émerveillement que suscite en moi cette écoute?
Je veux le silence pour les mots, qu'ils se posent, qu'ils se couchent, crus, sur le papier, qu'ils s'inclinent sur l'atlas de l'anabase.
Je veux tous les mots dans ma bouche. Manquer de m'étouffer.
Puis, les mastiquer, les régurgiter, faire des bulles avec.
Comme dans une BD.
Et les voir s'envoler, dessinant des papillons, éclater en syllabes face au soleil.
Pour finir en lettres dans la besace du facteur.
Après les discours, les mots bien éduqués s'en vont ranger leurs affaires. Les gros mots se prélassent dans l'ordure. Les mots doux s'affadissent. Usure et certitude d'un jour.
Dans tes fables et tes discours, tu joues aux mots carrés, aux mots croisés. Tu essaies de dresser en colonne les images fixes et encore discernables des choses elles-mêmes. Je dessine l'expérience nue de l'ordre.
Après les discours, on enferme dans une valise les mots valises. On laisse trébucher les mots qui nous ont trahis, les lapsus, les révélateurs des tumeurs de nos synapses déjà, qui se rouillent à l'eau.
Quand les mots sont partis, on rêve enfin, on s'ennuie. On pense avec le cœur, on sent avec les mains.
Le mot de la fin, le langage est un non-lieu. Les mots s'entrecroisent avec l'espace. Et je me ratatine parfois devant mon ordinateur.
Comme si je voulais y entrer. Trouvons le palais de notre coexistence.
Le tombeau des mots des autres, des erreurs. Et des bafouillages.
Fabrice, pour nous aider à écrire notre énigme du jour, vous nous avez offert quatre mots que nous avons utilisés. Les mots petit poussé, eau, mélancolie et le mot les mots. Comment vous avez fait pour choisir?
Il était tard. Je vous ai écouté à la radio, sur mon petit ordinateur dans lequel j'essayais de rentrer. Et voilà, mais c'est parce que c'est des mots dont je me sers souvent. Enfin, maintenant, après ce que j'ai entendu, mon vocabulaire aura définitivement votre voix et votre visage, et vos visages. Je ne sais pas comment je vais faire avec ça. C'est compliqué.
Notre côté, la mélancolie du petit poussé l'a poussé à jeter ses mots à l'eau. Alors Fabrice, y a-t-il des idées, des impressions, des images, peut-être un petit peu plus précises que nos visages, qui vous ont traversé pendant l'écoute de l'énigme ?
Non, je sais pas si j'ai beaucoup d'images. J'ai un rapport au texte très littéral, je crois. Très bête. Non, il n'y a pas d'image. Non, je pensais, sur les mots qui s'en vont, je pensais à une très belle nouvelle de Arnaud Schmitt, que j'aime bien, qui est géniale, où c'est une espèce de purgatoire, où sont les personnages célèbres après leur mort. Où vont les personnages célèbres après leur mort. Ça s'appelle l'île des sages, je ne sais plus le titre. Et donc, ils restent là, tant que leur nom est prononcé sur Terre. Et donc, il y a Homer qui est là au milieu, qui en peut plus, qui en a marre, jusqu'à... Et donc, quand le dernier homme, la dernière fois qu'un auteur, que quelqu'un de célèbre est cité, il fait un grand banquet et il s'en va enfin. On sait pas où, mais... Donc, j'imagine que les mots, c'est un peu comme ça, qu'il y aurait un deuxième monde, comme ça, où les mots resteraient, parce qu'ils retourneraient après qu'on les ait prononcés, et ils devraient...
Oui, donc finalement, l'attente, c'est celle d'échapper à... Non, d'aboutir à l'oubli, d'une certaine manière. Enfin, être oublié pour pouvoir continuer à vivre une vie en propre, de manière autonome, ne plus dépendre des autres. Accéder à l'oubli, pour ces personnages célèbres, en tout cas.
Dépendre, c'est pas une dépendance, mais oublier, disparaître, oui, je suis assez fan. Hein. Tous les gens, ils veulent exister. Je trouve que c'est tellement délicieux de disparaître. C'est bon, l'écriture permet ça, enfin, je veux dire, voilà. Et très très concrètement, matériellement, ça permet de disparaître derrière ses livres, et puis et disparaître derrière les mots, et tout ça, c'est très pratique, comme paravent. Et puis derrière, voilà, on peut faire plein de choses, derrière le paravent.
Nous allons écouter, cette fois-ci, une chanson que vous avez choisie. Vous nous raconterez pourquoi après.
L'indard venimeux, là un socle trompeur, plus loin une souche à demi trempée dans un liquide saumâtre plein de décoction d'acide qui vous rongerait les os, et puis l'inévitable clairière amie, vaste accueillante, les fruits à portée de main. Et les délices d'hiver dissimulés dans les entrailles d'une canopée plus haut que les nues. Elle est née des caprices, elle est née des caprices. Pomme d'or, pêche de diamant, pomme d'or, pêche de diamant. Des cerises qui rosissaient ou grossissaient lorsque deux doigts s'en emparaient, et leurs feuilles enveloppantes, la pluie et la rosée, la pluie et la rosée. Toutes ces choses avec lesquelles il était bon d'aller, guidé par une étoile, peut-être celle-là, première à éclairer la nuit. Première à éclairer la nuit. Première à éclairer la nuit. Vénus. 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 L'indard venimeux, là un socle trompeur, plus loin une souche à demi trempée dans un liquide saumâtre et d'acide, probablement qui vous rongerait les os. Et puis les fruits à portée de main et les délices d'hiver dissimulés dans les entrailles d'une canopée. Elle est née des caprices, elle est née des caprices. Pomme d'or, pêche de diamant, pomme d'or, pêche de diamant. Et ces cerises qui grossissaient lorsque... La pluie et la hausse.
choses guidées par une étoile, guidées par une étoile. Première à éclairer la nuit, Vénus, 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 Vénus. Elle est née des caprices, elle est née des caprices. Pomme d'or, pêche de diamant. Pomme d'or, pêche de diamant. Et ces cerises qui grossissaient lorsque la pluie et la rosée, toutes ces choses guidées par une étoile, guidées par une étoile. Première à éclairer la nuit,
Vénus d'Alain Bachung sur les paroles de Gérard Manset. Et j'aime beaucoup cette chanson, j'aime beaucoup Alain Bachung, et c'est aussi parce qu'il y a une référence, c'est une des sources de mon précédent livre qui s'appelait Canopée, et il parle de la canopée dans cette chanson, et je crois que c'est le déclencheur. Il y avait le Radeau des Cimes de Francis Allais en Amazonie, et cette chanson, et c'est en écoutant cette chanson au bord du bassin d'Arcachon à marée basse que j'ai trouvé le titre. C'est toujours un moment émouvant de trouver un titre à la fin d'un livre.
Vous n'avez qu'un anniversaire, par an.
Un anniversaire seulement par an.
Oh, mais il y a 364 non-anniversaires.
Aujourd'hui, nous fêtons un de cela.
Le non-anniversaire de Valentine de Saint-Point. Valentine, ce n'est pas votre anniversaire puisque vous êtes née un 16 février 1875. Nous ne fêtons pas plus votre anniversaire de décès le 28 mars 1953. Mais nous célébrons votre non-anniversaire sans autre prétexte que
l'amour
que nous avons pour vous. Valentine, votre véritable patronyme est Anna Jeanne Desglands de Cessia-Versel.
Fabrice Raymond. C'est votre pseudonyme, n'est-ce pas?
Oui. Comment vous savez?
C'est une évidence, Fabrice.
Tombe sous le sang.
Valentine, vous êtes l'arrière-petite-nièce de Lamartine, dont vous avez vraisemblablement hérité du lyrisme, lyrisme avec lequel vous avez conduit votre vie. Mariée à 18 ans, veuve à 25, et mariée de nouveau à peine plus d'un an plus tard, 300 jours exactement, le temps du fameux délai de viduité, délai incompressible et nécessaire entre deux mariages pour éviter toute incertitude sur la paternité d'éventuels enfants. Le droit, le sexe et la procréation font, contre toute attente, bon ménage dans l'ordre social et dans l'empire du ventre. Vous n'aurez pas de descendance, Valentine.
Fabrice Raymond, pour vous, l'amitié est la plus belle des transcendances.
C'est une des formes de la transcendance, en tout cas. Ouais. Je ne sais pas si c'est la plus belle, mais ouais.
Mais Valentine, continuons l'examen de votre vie privée. Vous acceptez de divorcer de votre second mari, à vos torts, pour avoir posé nu pour Rodin et paré de voiles, de lianes et de fleurs pour les peintures de Murat.
Fabrice Raymond, avez-vous déjà posé nu? Voudrez-vous être le modèle, la muse de quelqu'un?
J'aimerais beaucoup. Alors, on n'a pas l'image, hein, mais quand vous vouliez manger, je voulais commenter tout à l'heure au début de l'émission quand vous avez dit vous voulez manger en plat principal. Alors, les auditeurs n'ont pas l'image, mais je vous dis qu'elles ont peut-être plus gros yeux que grand ventre, comme disait ma grand-mère. Et donc, quand à poser nu, on m'a. Alors, je ne résiste pas après à me lancer des fleurs maintenant, c'est qu'on m'a comparé, il y a longtemps, au Balzac de Rodin. Et quand on voit les esquisses du Balzac de Rodin, au départ il a fait nu, en fait, après il lui a mis une robe de chambre. Et voilà, je trouve ça assez chic. Donc j'ai peut-être posé pour le Balzac de Rodin.
C'était vous.
Valentine, de ce mariage enfin libéré, vous vous adonnez à l'union libre pour vous consacrer pleinement à la littérature et à l'art. Le manifeste de la femme futuriste est votre réponse au manifeste futuriste de Marinetti, glorifiant la guerre comme seule hygiène du monde et le mépris de la femme.
Fabrice, profitez-vous de votre aura d'écrivain pour séduire ?
J'ai un peu que ça. Il y en a qui veulent coucher pour réussir. Moi, je veux réussir pour coucher, évidemment.
Alors que pour vous, Valentine, l'humanité est médiocre. Femmes et hommes méritent le même mépris. Vous ne pensez pas en catégorie, mais en une humanité composée de féminité et de masculinité. C'est le sentimentalisme qui est une faiblesse méprisable, parce qu'il noue les forces et les immobilise. Vous partagez avec les futuristes le goût pour la provocation anarchiste anti-bourgeoise. Marinetti a eu pour vous une grande estime, au point de vous instituer officiellement comme la première femme futuriste.
Fabrice, avez-vous une auteure femme favorite ? Ou peut-être raconter, vous pouvez nous raconter votre bibliographie ? Votre bibliographie.
Bibliobiographie. Je sais pas, Emily Dickinson, je sais pas, Claude Quin, ouais, Marguerite, Duras. C'est pas tant quand je suis triste, je m'achète un bouquin de Duras. Je lis pas, hein, mais ça
vous rend pas encore plus triste.
Ah non, mais moi, c'est anticorps. Hein, c'est la mélancolie, c'est bon.
Votre force, Valentine, c'est du côté de la luxure que vous la revendiquez, d'une luxure faite œuvre d'art, luxure comme élément essentiel du dynamisme de la vie. L'art et la guerre sont les grandes manifestations de la sensualité. La luxure est une fleur. Valentine, vous avez été peintre et graveur exposant au salon de 1914, écrivain et danseuse, chorégraphe inventant un nouveau genre, la métachorie, une danse d'essence cérébrale créée spirituellement et originalement avant d'être réalisée plastiquement. Installé au Caire et converti à l'islam, comme souvent les frondeurs, vous terminez votre vie versée dans la spiritualité et dans l'ésotérisme.